22. Le père de Pete prend effectivement du Vioxx depuis qu'il s'est sevré de l'oxycontin, mais il en a toujours en réserve. Le papier plié que Pete sort de sa poche arrière pour y jeter un coup d'œil avant d'entrer dans la pharmacie est une note sévère du proviseur adjoint, rappelant aux élèves de terminale que le jour de grâce des terminales est un mythe et que toutes les absences de ce jour-là seront examinées avec le plus grand soin par la scolarité. Pete ne brandit pas ostensiblement le papier. Bill Hodges est peut-être retraité, mais il n'a sûrement pas l'air d'un attardé. Non, Pete le consulte brièvement, comme pour s'assurer que c'est le bon, avant d'entrer dans la pharmacie. Il va directement au comptoir de délivrance des ordonnances dans le fond, où M. Pelkey le salue amicalement.
Hey « Hé Pete, je te sers quoi aujourd'hui ?»«
Rien, M. Pelkey. On a tout ce qu'il faut. » Mais je suis suivi par des mecs qui m'en veulent de pas les avoir laissé copier les réponses du devoir d'histoire qu'on avait à faire à la maison. Je me demandais si vous pourriez m'aider.
M. Pelkey fronce les sourcils et se dirige aussitôt vers le portillon pivotant. Il aime bien Peter, qui est un garçon toujours joyeux et avenant, alors que sa famille a traversé des temps incroyablement durs.
Tu vas me les montrer ? Je vais leur dire d'aller se faire voir ailleurs.
Non, je me débrouillerai avec eux demain. Quand ils se seront calmés. Je voulais juste vous demander si je peux m'échapper par la porte de derrière.
M. Pelkey lui glisse un clin d'œil de conspirateur pour lui signifier que lui aussi a eu 17 ans.
Bien sûr, viens, passe par le portillon.
Il conduit Pete entre des rayonnages garnis de boîtes de comprimés et de flacons, puis à travers un petit bureau dans l'arrière-boutique. Là, une porte affiche un grand avertissement en rouge. Attention, alarme. D'une main, M. Pelkey abrite le clavier mural fixé à côté et entre le code de l'autre. On entend un bourdonnement.
« Vas-y, file !» dit-il à Pete.
Pete le remercie, se glisse sur le quai de chargement à l'arrière de la pharmacie et de là saute sur le ciment craquelé du trottoir. Une ruelle le conduit dans Frederick Street. Il regarde des deux côtés, cherchant des yeux la Prius de l'ex-flic, ne la voit pas et s'élance au pas de course. Il lui faut 20 minutes pour atteindre Lower Main Street. Et même s'il ne voit à aucun moment la Prius bleue, il fait deux ou trois crochets de diversion en chemin, juste pour être sûr. Il vient de tourner dans l'Acemaker Lane quand son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un texto de sa sœur. « Tina, t'as parlé à M. Hodges ? J'espère que oui. M'en sais. Je lui ai pas dit, elle savait. Sois pas fâché, s'il te plaît. »
Comme si je pouvais, pense Pete. S'ils étaient plus proches en âge, peut-être qu'ils auraient pu avoir ce genre de rivalité qui oppose parfois frères et sœurs. Et encore. Il arrive qu'elle l'agace, mais il n'est jamais vraiment fâché contre elle, même quand elle fait sa chipie.
Bon, la vérité sur l'argent est éventée. Mais peut-être qu'il peut encore dire qu'il a seulement trouvé de l'argent et cacher le fait qu'il a essayé de vendre les biens les plus intimes d'un mort juste pour que sa sœur puisse aller dans une école où elle n'aurait pas à se doucher en commun,
et où sa débilose de copine Hélène disparaîtrait enfin dans le rétroviseur. Il sait que ses chances de s'en tirer sans encombre sont quasiment nulles. Mais à un certain moment, peut-être cet après-midi même, en classe, alors qu'il regardait les aiguilles de la pendule avancer régulièrement vers 3 heures, c'était devenu secondaire. Ce qu'il veut vraiment faire, c'est envoyer les carnets, surtout ceux qui contiennent les 2 derniers romans de Jimmy Gold, à la New York University. Ou peut-être au New Yorker, puisque c'est eux qui ont publié presque toutes les nouvelles de Rothstein dans les années 50. Et baiser Andrew Hallyday. Oui, l'enculé bien profond, et à sec. Il n'y a pas moyen que Hallyday vende le moindre écrit de la dernière période de Rothstein à un quelconque collectionneur riche et cinglé qui les enfermera dans une pièce secrète à l'hygrométrie contrôlée à côté de ses Renoirs, ses Picasso ou sa précieuse Bible du XVe siècle. Quand il était plus jeune, Pete voyait dans les carnets un simple trésor enterré. Son trésor. Il est plus avisé aujourd'hui. Et pas seulement parce qu'il est tombé amoureux de la prose ravageuse, drôle, et parfois follement émouvante, de John Rothstein. Les carnets n'ont jamais été seulement à lui, pas plus qu'ils n'ont été uniquement ceux de Rothstein. Peu importe ce que pouvait en penser l'auteur lui-même, planqué dans sa ferme du New Hampshire. Il mérite d'être vu et lu par tous. Peut-être que le petit glissement de terrain qui avait révélé la présence de la malle en ce fameux jour d'hiver n'était rien d'autre qu'un hasard. Mais Pete n'y croit pas.
Ils croient que les carnets, comme le sang d'Abel, criaient depuis leur tombeau. Si c'est être un indécrottable romantique de penser comme ça, eh ben soit. Il y a des conneries, c'est pas des conneries.
À mi-parcours de Lacemaker Lane, il repère l'enseigne de la librairie, en forme de parchemin à l'ancienne. Ça ressemble à l'enseigne d'un pub anglais, même si celle-ci indique « Andrew Hallyday Rare Editions » et pas « Le repos du laboureur » ou autre. En la voyant, les derniers doutes de Pete se dissipent comme de la fumée. Il pense « John Rothstein non plus sera pas le pigeon de service, Monsieur Hallyday. Ni maintenant, ni jamais. T'auras aucun des carnets. Drake, mon goy, comme dirait Jimmy Gold. Si t'appelles les flics, je leur raconterai tout. Et après les emmerdes que t'as eues à cause du bouquin de James E.G., on verra qui ils préféreront croire. » Un poids, invisible mais très lourd, semble lui être ôté des épaules. Quelque chose dans son cœur semble s'être remis d'aplomb pour la première fois depuis bien longtemps. Pete s'élance vers la librairie Hallyday d'un pas redoublé, sans avoir conscience qu'il a les poings serrés.